This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vous rêvez de faire de la vidéo? Bonjour, 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 c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 325. Nous sommes vendredi et aujourd'hui, je vous ai réservé une petite surprise avec un invité spécialisé dans la vidéo. Puisqu'aujourd'hui, je reçois Janvier ou Jean-Baptiste Vier, finalement, je sais pas trop. On en discutait juste avant. Entre le nom de la chaîne YouTube, c'est Janvier. Sur le livre, vous verrez, c'est Jean-Baptiste Vier. Voilà, si vous le cherchez sur Amazon, vous verrez, c'est bien la même personne. Bonjour Jean-Baptiste.
Bonjour Bertrand, merci de m'inviter. Et on va parler vidéo donc ce soir. Enfin, ce matin, pardon.
On est le soir, on le dit, on enregistre jeudi soir. Il n'y a vraiment pas de... On cache rien, hein, sincèrement, parce que je fais un podcast privé. Donc je le dis vraiment à tout le monde, je cache pas grand-chose. On va commencer par les présentations parce que finalement tu fais quand même pas mal de choses, hein. T'as une chaîne YouTube, 23 000 abonnés j'ai à peu près, je crois.
C'est ça, presque 24 000, bon, c'est 25 000 on va dire, en moyenne.
Voilà, tu viens de sortir un livre avec quelqu'un que l'on connaît puisque je l'ai reçu il y a un an, qui est Max Maximus. Alors c'était l'épisode 171, qui a vraiment un an parce que c'était en janvier, on avait parlé de vidéos, de... Il nous avait donné un peu sa philosophie de création. Donc, on va aller parler un petit peu de tout ça. Alors, je te laisse te présenter pour nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et où on peut déjà te retrouver. Comme ça, déjà, on peut te chercher en même temps.
Donc, je m'appelle Jean-Baptiste Vier. Donc, j'ai deux ans d'identité, en fait, parce que Jean-Baptiste Vier, c'est mon nom en tant que chef de projet chez Orange. Donc, je suis responsable marketing des annuaires en ligne d'Orange, le 118.712.fr. En fait, j'ai fait ça pendant 5 ans parce que là, je suis en train de changer métier. Je vais vers des métiers plus techniques. Alors, toujours dans des choses qui m'intéressent, qui sont liées à l'analytics. On va dire que j'ai plus un rôle de chef de projet web à venir, ce que j'ai un peu fait. Donc, à côté de mon job chez Orange, j'ai une vie assez développée sur les internets. Donc, au départ, j'avais un blog où je vulgarisais l'informatique, où je présentais des tutos pour, je sais pas, convertir des vidéos dans tous les formats, pour regarder les vidéos... disponible aux États-Unis et interdit aux Français pour faire un CV. Vraiment, c'était dans le cheminement. Je démarrais le blog, j'étais étudiant et j'avais besoin moi d'avoir des ressources et je me disais si c'est intéressant pour moi, pourquoi pas partager aux autres. Donc j'ai évolué de fil en aiguille vers le format vidéo. Avant d'aller vers la vidéo, je suis allé également vers les livres. Donc j'en suis à mon quatrième livre publié. J'ai démarré par l'auto-édition. J'ai raconté mon aventure dans le blogging. Donc, dans ce que je faisais dans mon blog high tech, je monétisais mes contenus avec AdSense. Donc, il y avait une vraie logique derrière de revenus. J'en tirais des revenus assez conséquents et j'avais trouvé ça intéressant d'en parler dans un livre parce que j'avais aussi des problèmes avec le fisc, etc. C'était un petit peu le livre avait été à l'époque un petit peu pour m'exprimer à un public. Comment dire, qui a le temps en fait d'écouter mon histoire. Donc après ça, je me suis intéressé fortement à la vidéo, on va dire à partir de 2015-2016, notamment à YouTube parce que j'ai vu un peu un switch en termes des usages. Les gens que j'avais par exemple en stage chez Orange, la jeune génération, ils allaient plus voir les blogs, ils allaient plus voir mes tutos textes, ils allaient plutôt chercher sur YouTube une réponse à une de leurs questions, voilà. Alors ça peut être des tutos beauté, si je suis pas une demoiselle, hein, je veux pas faire de sexisme, mais ou des tutos informatiques simplement, je sais pas si j'ai envie de faire un CV. Et je me suis dit bah ça serait pas mal d'aller vers ça. Et donc j'ai appris parce que je ne savais pas faire. J'ai appris en regardant, j'ai appris en échangeant avec Max dont tu parlais. Et donc ça m'a permis aussi, moi j'ai un peu une logique, quand j'apprends j'aime bien partager. D'écrire un bouquin sur le sujet qui s'intitule YouTuber. Et j'ai convaincu Erol de le publier. Donc, je suis passé de l'auto-édition à l'édition traditionnelle. Et donc, j'ai pu voir tous les bénéfices d'être adossé à une grande maison d'édition, notamment la distribution dans les librairies, dans les FNAC, notamment des retours de correcteurs qui sont un petit peu qualifiés. Avoir un format quand même en termes de maquette, c'est mieux que de l'auto-édition. Quand tu fais du livre papier, ils font quelque chose de très propre avec InDesign. voilà un petit peu mon parcours et j'aime toujours partager autour des sujets, on va dire, l'informatique, vulgariser l'informatique. Et puis, comme j'ai pas mal potassé le sujet de la vidéo, aussi sur la vidéo, et avec Max, on s'est dit que ça serait bien aussi de donner les deux approches, à la fois amateur et professionnel, sur la logique de création de vidéos. Et c'est l'objet de notre dernier livre, qui a été publié hier soir, auquel tu as participé en tant que relecteur, qui s'appelle « Marketing vidéo ».
Tout à fait, oui, parce que je l'ai pas dit, hein, bien sûr. Moi, j'ai vu en primeur certaines pages du livre, puisque j'en avais relu, or je sais pas le pourcentage, etc. Je me rappelle pas de ce que j'ai relu, j'ai regardé un petit peu. C'était pendant l'été, en fait, hein, je crois, que la relecture. Hein.
Exactement, on a rendu le manuscrit final, je me souviens, le 10 septembre, et toi, tu as été super actif. Donc, on avait trois relecteurs, donc on t'a alimenté à hauteur de un tiers de l'ouvrage, et on a un petit peu ciblé les sujets sur lesquels on te sentait plus légitime que d'autres, hein, par ton background un peu technique, marketing de contenu. Et donc, ça nous permet d'avoir un livre, et c'est super important, les relecteurs, où finalement, on dit des choses un peu plus exactes et aussi un peu plus compréhensibles, parce que parfois, moi ou Max, on reste dans notre jargon et on a des propos peut-être qui sont un peu difficiles à intégrer. Donc, je me souviens, tu nous avais fait un super retour, super feedback sur... C'est l'inbound marketing qui est une notion importante. Fallait pas l'amener tout de suite au début du livre. C'est vrai que c'était un peu violent et on t'a écouté, Bertrand.
Ouais, parce que vous attaquez dès la première page sur un terme, un gros mot. Enfin, un gros mot, c'est un mot important. J'ai fait quelques épisodes dessus, puis on va en travailler beaucoup dessus. En fait, même l'inbound marketing, pour tout dire, c'est le sujet principal que j'aborde avec mes étudiants de master, même de licence maintenant, parce que pour qu'ils comprennent la logique de fonctionnement. Mais c'est vrai que là, c'était un petit peu violent. Et je le dis aussi pour ceux qui achèteront le bouquin, qu'ils soient pas surpris, ils voient ma tête. Alors ça, j'étais pas du tout au courant dans les copies d'écran. Donc je suis un influenceur plus efficace que Kylie Jenner. Merci, hein, vraiment. Donc j'ai fait une petite story d'ailleurs pour le dire. On pourra envoyer ça à tous les Kim Kardashian, pardon, Kylie Jenner.
Kim Kardashian. Ouais.
Kim Kardashian. Pour envoyer ça à toutes les marques.
Ouais, ce qui compte, c'est pas le nombre d'abonnés, c'est l'engagement. Et sur ton sujet de prédilection, qui est le running, je pense que les marques ont plus intérêt à te faire confiance, hein, que faire confiance à Kim Kardashian. Hein. Enfin, quand on voit la taille de son popotin.
Je ne me prononce pas sur le popotin des demoiselles, s'il te plaît. Donc merci pour cette présentation. Tu parlais de la vidéo d'ailleurs chez les jeunes, qui était utilisée par les plus jeunes. Alors c'est vrai que c'est un constat qu'on peut faire. T'estimes finalement la consommation de vidéos, est-ce qu'elle est ciblée par des âges, par des comportements, par des situations où on regarde plus de vidéos à des moments que d'autres? Comment tu vois un peu les choses?
En tout cas, chez la jeune génération, ils sont plus dans la logique que nous on a connue, où il y avait un programme qui était diffusé à la télé et il fallait s'adapter à la tranche horaire. C'est vraiment eux qui choisissent leur programme. On le voit avec la puissance de Netflix. Si tu veux regarder des séries, des films, c'est toi qui choisis quand est-ce que tu veux le voir. Et alors je sais pas, c'est après la génération Y, c'est Z, enfin vraiment les plus jeunes, ils ont tous leur compte, ils se le partagent même. Je vois même qu'il y a des offres Netflix. Ils se prêtent, je crois, des offres Netflix Famille. C'est assez flagrant.
Netflix a dit qu'ils allaient d'ailleurs arrêter de trouver. Ils vont chercher un système pour un peu limiter les choses, parce qu'ils se sont rendus compte quand même que c'était un petit peu. Il y avait un peu d'abus, mais bon, on verra bien.
Et après, si tu regardes au niveau des réseaux sociaux, là aussi, tu as des logiques par tranche d'âge. Si on prend Snapchat, ça va être très jeune. Je sais pas, moi, 12-14 ans. Si tu prends YouTube, ça va être aussi jeune. C'est là où le contenu, par exemple, gaming fonctionne très bien. Facebook, c'est un peu plus généraliste. Donc là aussi, c'est très suivi. Le format vidéo est bien popularisé, parce que derrière, ça te permet en fait à rester plus longtemps sur ton Facebook. Et donc, Facebook a compris qu'il avait intérêt à favoriser l'apparition de ce type de format. Et là, Facebook, ça sera un peu plus généraliste, hein, et ça sera un peu plus... comment dire, des contenus peut-être un peu plus qui buzz, polémiques, drôles. C'est beaucoup plus généraliste, en fait, Facebook.
Alors, d'ailleurs, tu vois, j'ai le livre devant les yeux. Communiquer comme un pro sur YouTube, Facebook, Instagram. Pas de Snapchat, pas de TikTok.
Alors, ouais, on s'est concentré sur les réseaux sociaux qui avaient le plus d'audience. Donc, c'est des réseaux sociaux, à chaque fois, tu as plus d'1 milliard d'utilisateurs, hein, qu'on a pris. Pour être efficace. Mais bien entendu, selon les cibles, si tu as une cible très jeune, tu vas avoir intérêt quand même à diffuser, tu es une marque, une entreprise, aller t'adresser à Snapchat ou à TikTok. Ouais, TikTok est massif, je sais pas combien d'utilisateurs, mais c'est plus des formats vidéo comment chantés, c'est ça hein, c'est les petites
ouais,
danses.
C'est la vidéo chantée, mais alors ils ont une caractéristique, c'est qu'en fait, ils ont eu plus de téléchargements sur les derniers mois que Instagram. Alors que Instagram a quand même été la grosse grosse poussée, c'est vrai que TikTok a une accélération qui est plus forte pour l'instant. Mais alors c'est vrai et moi j'en parle parce que je croise énormément d'étudiants, j'ai 500 ouais. étudiants en cours dans l'année à peu près et quand je leur parle de TikTok, ils me regardent tous à un air dégoûté en disant "Oh là là, c'est pas possible." Et je leur dis "Oui, mais regardez vos petits cousins, vos petites cousines, petites sœurs petites... et là ils me disent "Ah oui, c'est vrai, ils sont dessus, c'est leur truc." Ça et Snapchat hein qui est vraiment très très jeune, on est vraiment sur des outils vraiment très 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 jeunes. Alors que c'est vrai que YouTube hein, sur une les étudiants, ça fait vraiment vraiment fureur. Facebook, ils me disent que c'est pour les vieux, ah, soyons
okay,
clairs.
C'est clair.
Et Instagram, ben ils y sont, mais bizarrement, moi, je les sens pas très. Alors, ils regardent beaucoup de stories, mais je les sens pas plus vidéo que ça, en tout cas, de publier eux-mêmes de la vidéo, des choses comme ça. Mais par contre, les stories, ce qui est un peu désespérant, par contre, sur les stories, je le dis. J'ai une étudiante hier qui m'a dit qu'elle laissait moins d'une seconde à une vidéo pour savoir si ça l'intéressait.
Ah et, d'accord.
Je lui ai dit, je sais même pas comment vous faites pour vous faire un avis en une seconde, et j'ai vu faire, et c'est vrai que c'est, elle défile à une vitesse les stories, c'est un vrai défi, hein, l'accroche des vidéos, mais c'est un défi que t'as aussi sur YouTube, et dont c'est important de parler quand on se lance dans la vidéo, c'est que faut pas louper le tout début, quoi.
Exactement, l'attention du spectateur, c'est assez primordial, et enfin, c'est une bonne pratique qu'on peut faire, même sur YouTube qui propose des formats longs. Tu as le même phénomène, alors ça va pas être une seconde, mais tu sais qu'au bout de 30 secondes, si la personne elle sait pas ce dont tu vas parler, si tu l'as pas mis un petit peu en perspective, je sais pas, si on prend un tuto, faut montrer un tuto cuisine, comment faire des crêpes, faut montrer le résultat en fait, comment tu as fait tes crêpes, faut montrer à l'image parce que ça va, les gens vont se dire en regardant la vidéo, bah finalement je vais réussir à arriver à ce résultat là, donc c'est comme ça que tu arrives à capter un petit peu l'attention. Tu captes l'attention aussi en ayant un discours, en parlant à tes spectateurs, donc en étant toujours présent en face d'eux, en les amenant dans ton histoire. Donc les premières secondes sont assez cruciales, mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire des formats courts, parce que si tu as une histoire qui se tient et qui nécessite une démonstration, un argumentaire assez long, tant que tu arrives à les maintenir, leur attention, à les maintenir jusqu'au bout, bah même sur YouTube, ça va être super favorisé parce que YouTube va privilégier les vidéos qui te font rester longtemps sur la plateforme. Mmh. Donc voilà, la bonne mécanique, c'est ça. C'est dès les premières secondes, dis exactement de quoi tu parles, montre-le et essaie d'accompagner le plus longtemps possible tes spectateurs jusqu'au bout de ta vidéo.
Ouais, alors l'attention commence même avant d'avoir démarré la vidéo, parce
exact.
Que j'ai rigolé en voyant vos vignettes, vos photos dans le livre, Max qui a sa tête, et un jour j'avais fait la remarque à Max, j'ai dit est-ce que tu feras un tuto pour expliquer comment on fait des grimaces sur toutes les vignettes de vidéos YouTube, et j'ai fait un jour un cours avec les étudiants, je leur ai demandé de regarder les chaînes les plus populaires, et je leur ai dit regardez la tête de tous les YouTubeurs, les têtes qu'ils font. Et c'est quand même on pourrait faire une espèce de zapping de toutes les têtes bizarroïdes qu'on fait. Hein.
Ouais, c'est sûr. C'est ça. Faut retenir attention effectivement quand t'es dans la partie suggestion de vidéos sur YouTube ou dans la recherche. Et ça passe par l'image, par la vignette. Et effectivement, si t'as une petite bouille qui t'indique que tu marques l'étonnement, qu'il t'arrive un truc grave ou que tu es mort de rire, les gens ils vont vouloir savoir pourquoi tu fais cette bouille là. Effectivement, faut être assez démonstratif, même trop, ça devient presque ridicule parfois. C'est les codes de la plateforme qui sont un peu utilisés et qui ont démontré leur efficacité en termes de taux de clic. Et c'est pour ça que les vidéastes les utilisent. Mais si tu as un sujet un peu plus sérieux, je sais pas, documentaire, va falloir montrer pas forcément ton visage, mais le concept que tu développes. Et ça, c'est un repère. Donc c'est l'image, mais aussi le texte. Reprendre dans la vignette un petit bout de texte qui correspondra à la recherche qu'aura effectué le spectateur sur YouTube. Et là, c'est juste repérage visuel. Il faut imaginer, tu as des listes de recherches avec 10 résultats, tu as des suggestions de vidéos. Et le but du vidéaste, c'est que dans cet amas de contenu qui est mis en avant, que tu cliques dessus et donc effectivement, toutes les stratégies sont bonnes, quoi.
Oui, et alors les stratégies, et tant qu'on y est avant d'ailleurs, la stratégie, il faut le rappeler quand même, c'est que YouTube est avant tout un moteur de recherche hein, qui appartient à Google. Donc le positionner une vidéo, on va dire, c'est aussi très stratégique au niveau SEO, référencement. On est dans des logiques aussi de référencement des vidéos sur des sujets, quoi.
Tout à fait. Alors, bah, ça marche par les métadonnées. Le titre, le descriptif. Le titre, c'est vraiment, c'est comme en SEO, c'est le truc le plus essentiel. Et d'autant plus que c'est intéressant d'optimiser le SEO de ta vidéo, parce que la vidéo, après, quand elle est hébergée sur YouTube, elle va être mise en avant aussi également sur Google. Donc, il y a des blocs de résultats vidéo. Et en fait, il y a des mécanismes de déclenchement sur Google quand ta recherche est connotée vidéo ou connotée tutoriel, parce qu'on sait que c'est ça que veulent les gens. Ils veulent des vidéos. Ils veulent quelque chose de prêt à l'emploi. Google va avoir tendance à les booster dans les résultats de recherche. Il va d'autant plus les booster que tu restes dans son écosystème aussi. Hein. On va de plus en plus... ce que faisait Facebook, Google est en train de le faire aujourd'hui. Hein. Ils veulent que tu restes le plus longtemps chez eux. Ils vont maintenant t'afficher la réponse directe, mettre moins de résultats. Hein. Je ne sais pas comment ça s'appelle, la One Box, où tu as une seule réponse. Donc, la vidéo, mais c'est pas seulement les métadonnées. Parce que finalement, ce qui va te booster dans l'écosystème YouTube, au niveau de ta recherche, c'est ta capacité à faire rester longtemps l'internaute. C'est ce qu'on appelle le watch time, le temps de visionnage. Et d'autres mécanismes également d'engagement qui marchent bien sur les réseaux sociaux. Hein. Quand ton contenu est liké, commenté, qui fait réagir, là, YouTube se dit, la plateforme, si les gens interagissent, ça veut dire que quelque part, ça apporte de la valeur. Donc, il y a des gens qui vont, dans cette logique encore, on parlait des miniatures accrocheuses, qui vont être aussi un petit peu aguicheurs au niveau de la vidéo, dès le démarrage, s'il te plaît, mets un like. Ou alors, plus subtilement, à la fin de la vidéo, c'est de bon ton de poser une question ouverte. Mm-hmm. Parce que derrière, tu sais que ça va générer de l'engagement. Donc, on est vraiment... C'est mécanismes un peu plus complexes que le SEO traditionnel, parce que c'est pas seulement les métadonnées ou la popularité via des backlinks, hein, mais c'est l'engagement que tu arrives à générer sur ta plateforme qui va faire que ta vidéo va bien se référencer.
Oui, c'est vrai qu'il y a tout un tas de facteurs. Hein. Faut pas oublier que ça reste des dynamiques sociales et des dynamiques de contenu. Ils ont envie qu'on reste chez eux le plus longtemps possible. Et c'est vrai que j'ai vu des statistiques sur le temps des vidéos de 40 minutes qui sont regardées, qui ont des gros taux pour être regardées. Est-ce que on en discutait tout à l'heure avant d'enregistrer. Hein. C'est vrai que ce que je disais sur le podcast aussi, c'est que des fois, des vidéos qui sont très très courtes, ou des podcasts qui sont très très courts, des fois sont presque plus pénibles pour les personnes qui regardent, parce que ça change tout le temps. Et je crois que on aime bien aussi, quand on est accroché par quelque chose, rester dedans un petit moment. Et alors, même si moi j'ai une tendance à accélérer, moi je regarde toutes les vidéos en 1x25, sauf celle de Thibaut InShape.
Ah bon?
Non, parce que c'est tellement haché. Ouais, c'est tellement haché, etc. Je sais pas. Un jour, enfin voilà, j'ai cherché la réponse dans votre bouquin et vous l'avez pas. Faut-il absolument hacher ses vidéos pour parler, pour avoir du succès sur YouTube? Mais c'est hallucinant, quoi.
Ah non, faut éviter ça. Laurent Claus, qui témoigne dans le bouquin, ils appellent ça, je crois, en journalisme, c'est vidéo, c'est le jump cut.
Ouais, jump cut, ouais.
Et ça, faut éviter absolument. C'est une mauvaise pratique des YouTubeurs, justement pour dynamiser le format. Mais si tu veux avoir un format pro, voilà, vaut mieux éviter ce genre de truc où, au final, sur certains spectateurs, ils n'arrivent plus à comprendre ton propos, quoi, ça va trop vite.
Oui, c'est ça. Alors, j'ai fait la remarque à mes étudiants et je leur ai même lancé le défi à certains de compter le nombre de jump cuts dans la vidéo de Thibaut InShape où il parle de ses revenus. Et je vous raconte vraiment une anecdote, parce qu'un jour, j'étais sur un vélo à la salle de sport et j'ai mis cette vidéo-là parce que des étudiants m'en ont parlé. Et je dis, il faut quand même que je regarde cette vidéo-là, et je crois que c'était les 20 minutes les plus longues que j'ai eues, je pense qu'il y a au moins 200 coupures, enfin, il y a toutes les mots, il y a un cut, c'est hallucinant, et ça fait même plus naturel, on sait même plus comment il parle réellement, en fait, hein, c'est hallucinant.
Ouais, c'est la vidéo où il expliquait qu'il monétisait une vidéo personnelle, là, ouais, plus une cinquantaine d'euros.
Ouais, où il fait signer, il fait des petites vidéos personnelles.
Ouais, dédicacées, ouais.
Voilà, c'est ça. Et elle est coupée, je ne sais pas. Je voudrais bien voir la timeline de montage, en fait, parce que je pense que le nombre de... Moi qui suis très flemmard sur le montage, tu vois, je me dis, je peux... De toute façon, ça me fatiguerait de faire ça, tu vois. Quelque part, ça me fatiguerait trop de le faire.
Oh, c'est sûr. Mais donc, ce propos, l'argent s'intéresse. On en a parlé, t'as un autre YouTuber, peut-être, je pense que c'est pour ça que tes étudiants t'en ont parlé. C'est Squeezie, je crois, qui a un petit peu démonté, qui l'a un peu taclé là-dessus, en disant arrête de mentir, tu gagnes déjà beaucoup d'argent avec la publicité sur tes vidéos, t'as pas besoin de faire ça en plus, etc. Mmh. Et c'est aussi ça, hein, c'est tout ce clash, cette polémique qui fait que derrière, on arrive à capter l'attention des spectateurs sur YouTube, ça c'est important.
Ouais. Tiens, j'avais une question, parce qu'on a parlé de YouTube, Facebook, Instagram, ça nous amène sur une question des formats vidéo entre le carré, vertical et horizontal. Comment on fait pour
Ouais.
sortir de tout ça?
Alors, bah, c'est adapté en fonction de la plateforme et de l'usage, on va dire, de la plateforme. Aujourd'hui, sur YouTube, quand tu utilises l'application sur mobile, donc il y a 50% des connexions qui sont faites sur mobile en consultation de YouTube. Donc, mais si tu prends l'appli, tu regardes bien quand tu navigues. Alors, les vidéos verticales fonctionnent, hein, elles s'affichent bien sur YouTube. Le problème, c'est que tu as, je sais pas, 40% qui est desktop d'audience aussi, 10% tablette. Et donc, une vidéo verticale sur ordinateur, c'est pas génial. Donc, tu as plutôt intérêt à faire une vidéo 16/9 sur YouTube, parce que tu seras bien sur desktop, sur tablette. Et sur mobile, de toute façon, l'application fait en sorte que tu mettes ton téléphone à l'horizontale pour l'avoir en plein écran. Donc, sur YouTube, il n'y a pas de problème. Pour l'instant, il faut faire des vidéos 16/9. Alors, sur Facebook et Instagram, alors on va parler d'Instagram. Le format privilégié aujourd'hui dans ton feed d'actualité, c'est le format carré. Donc, sur Instagram, il faut publier ta vidéo au format carré. Sinon, si tu fais pas ça, de toute façon, ils vont te la couper en haut ou en bas. Donc, tu as intérêt à avoir une vidéo au format carré. Donc, si tu pars d'une vidéo 16/9 que tu as déjà sur YouTube, il faut un petit peu traficoter le truc. C'est-à-dire, nous, ce qu'on dit dans le livre et ce qu'on voit beaucoup, c'est d'aller. Donc, si tu retailles pas à l'intérieur l'image pour avoir un carré, tu peux au-dessus mettre, je sais pas, un petit titre, un petit peu accrocheur, et en dessous, tu mets les sous-titres. Et donc, ça, comme ça, tu arrives en fait à moindre frais, comment dire, à disséminer en fait ta vidéo YouTube ou également sur Instagram. Sur Facebook, alors, c'est débat vidéo carrée ou verticale. Donc, Instagram, quoi qu'il arrive, hein, c'est que du mobile, hein, en termes de consommation, là. Je sais pas, c'est 80. Enfin, on peut regarder des photos de temps en temps sur son PC, mais bon, je pense que c'est 95% mobile. Donc, carré sur la timeline, et bah, naturellement, t'as pas le choix quand tu fais les stories, c'est vertical. Donc, tu fais des vidéos de 15 secondes en vertical, et sur IGTV, qui marchait bien, je pense qu'aujourd'hui, les gens regardent moins. Je sais pas si, même toi, en tant que utilisateur, si tu fais encore des vidéos à IGTV, c'est
Bon.
pareil, c'est vertical.
J'en ai fait une il y a un mois,
Ouais.
qui a pas eu, qui a eu assez de succès finalement par rapport à ce qu'il y avait avant, alors que j'avais l'impression qu'on en voyait moins. Mais c'est vrai que Instagram, je pense qu'ils ont senti aussi qu'il fasse plus d'efforts sur la promotion. Et donc maintenant, en fait, on voit des promotions dans le flux ou au-dessus des stories. Il y a une petite ligne des fois qui apparaît disant
Ouais.
qu'il y a une vidéo d'une personne qu'on suit sur IGTV qui a été postée, etc. Je pense qu'ils ont compris quand même qu'il fallait qu'ils poussent le format, que naturellement ça serait pas si simple que ça. Et surtout que moi je vois beaucoup de stories d'influenceurs qui, quand ils ont le swipe up dans les stories, ils
Ouais.
envoient vers YouTube parce qu'ils veulent privilégier la consommation YouTube qui est leur principal pourvoyeur de trafic et d'argent pour certains, plutôt que sur IGTV où je pense qu'ils n'ont pas encore tout à fait l'audience, puis ils n'ont même pas tout à fait l'audience qu'il y a sur YouTube tout simplement, ou en termes de
Ouais.
consommation. Et même moi, tu vois, j'en discutais avec mes fameux étudiants là que je vois beaucoup. Certains même ont même pas la notion que ça existe, vraiment, parce qu'ils y vont
Ouais.
pas tant que ça, quoi. C'est pas rentré, alors qu'ils font 2 heures de YouTube à côté, quoi. Mais IGTV, pour l'instant, il y a un truc je pense, qui a pas
Ouais.
encore vraiment accroché, quoi.
Il y a eu un effet nouveauté, tout le monde s'est rué vers ça, mais après, c'est vrai qu'on est un petit peu revenu en arrière. Par contre, les stories sur Instagram, ça cartonne, les gens consomment dessus, et puis c'est très facile à produire, hein, puisque c'est juste, tu prends ton smartphone, puis tu filmes à la verticale, des courtes séquences de 15 secondes. Donc là, on est sur la verticale. Sur Facebook, le format privilégié, quand même, c'est le carré. Alors, on va repartir des metrics. Tu as 70% de consommation mobile sur Facebook. Donc, très clairement, faut privilégier le format qui va être adapté à un mobile. Sur l'application Facebook, sur smartphone, il n'y a pas de mode, comment dire, paysage, c'est mode portrait. Tu tiens le smartphone, quand tu consultes l'appli, tu regardes ta timeline, tu restes à la verticale. Donc, si tu veux bien apparaître là-dessus, le truc le mieux, effectivement, ça serait de faire une vidéo verticale qui occuperait tout l'espace, tu n'as pas besoin de tourner le téléphone. Le problème, c'est que si tu fais ça va pas être génial sur les 30% de connexion qui restent sur un ordinateur. Donc le compromis, c'est de faire une vidéo carrée qui va avoir une bonne exposition sur mobile et qui va pas donner quelque chose de dégueulasse sur ordinateur. Et comme c'est très mobile et que c'est contrairement à YouTube, il n'y a pas une action utilisateur quand tu vois les vidéos, ça apparaît dans ton flux. C'est comme une espèce d'autoplay, hein, la vidéo elle se joue et le son est coupé. Il faut penser aux sous-titres. Sans sous-titres, je crois que moi, je regardais les stats. Tu as 70% à 80% des vidéos vues sur Facebook sont vues sans son. Donc, si tu veux commencer là, on parlait d'attention tout à l'heure, à capter un petit peu l'attention et inciter les gens à cliquer sur play pour avoir le son, bah, faut démarrer avec les sous-titres pour qu'ils puissent commencer à te suivre depuis leur mobile. Voilà.
Oui, et puis je crois d'ailleurs que, et j'en suis même persuadé, c'est que le simple fait qu'un texte apparaisse sur la vidéo, déjà t'attire l'œil, t'accroches l'œil, et déjà tu gagnes un premier élément d'attention, même si c'est pour demander aux gens de monter le son, déjà tu gagnes quelque chose. Et puis après, bon, c'est vrai qu'on voit des stats, hein. Alors moi j'ai eu des, je vois chez certains qui ont des temps de consommation des réseaux sociaux qui très très fortes, hein, le plus fort que j'ai eu, c'est un étudiant qui faisait 4 heures de Snapchat par jour et 2 heures d'Instagram, et en plus il faisait du YouTube, 2-3 heures de YouTube, donc ça veut dire qu'il avait on était presque à 10 heures, hein, sur les stats de son iPhone, sur ces outils-là. Et c'est vrai qu'il n'y avait jamais le son, mais tout simplement parce que la moitié de ça, c'est il le fait en cours.
Ah oui, faut pas être entendu, d'accord.
Et ouais, donc là, le son, il l'a jamais.
Mode incognito.
Voilà, en mode incognito. Et quand on regarde un petit peu, on voit le mode incognito, il est partout. Par contre, après, sur cette histoire de verticalité sur Facebook, je me suis fait une remarque hier, parce que j'ai fait une analyse des sites avec mes étudiants, un peu des pages Facebook. On était sur la page du slip français. Et la remarque qu'on s'est faite, c'est que toutes leurs photos étaient en mode vertical. Sur leur page Facebook, c'est-à-dire que, mais vraiment, hein, elles sont toutes en mode vertical. Il y avait pas de,
d'accord.
Alors les vidéos, j'ai pas fait attention, tu vois. Je, pour être très honnête, j'ai pas trop regardé. Mais sur les photos, c'est vrai que c'était tout en vertical. Alors ce qui peut se traduire aussi peut-être par le fait que leur audience est tout simplement plus encore que 70% sur mobile, tout simplement. Et par rapport, pour finir sur cette histoire de verticalité, j'avais vu une stat, c'est qu'on tient un smartphone plus de 90% du temps en vertical. Et une étudiante m'a fait la remarque, elle m'a dit, bah, les seuls moments où je le mets en horizontal, c'est pour regarder YouTube. Voilà. Donc on est vraiment dans ces types de consommation. Ceux qui voudraient faire la même vidéo qui soit vue partout, bon, bah, effectivement, t'as donné des pistes. Moi, j'en ai parlé dans un épisode, j'ai parlé d'un outil qui s'appelle Headliner, je sais pas si tu l'as testé, qui permet faire ce que vous faites là, ce que tu disais de faire, mettre les sous-titres en bas, mettre des lignes recadrées, mettre un titre en haut, des sous-titres en bas. Avec une application comme Headliner, on peut le faire très 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 simplement. Et c'est vite fait, et on le voit, hein, chez certains. Je donnais l'exemple de Gary Vaynerchuk à mes étudiants l'autre jour, pour leur montrer où toutes ces vidéos sont quasiment toutes des formats carrés, mais qui viennent en fait de 16 neuvièmes mises dans des carrés.
Ouais.
Et alors, par contre, lui, il fait un truc, mais bon, lui, il a 3 millions d'audience, hein, je crois. Sur les stories Instagram, il fait tourner le téléphone. La première image, il demande aux gens de tourner le téléphone. Sur IGTV, il demande de tourner le téléphone pour mettre en horizontal.
J'ai vu ça. C'est pas terrible, moi, je trouve, hein.
Ouais, c'est très surprenant. Je sais pas quel est le pourcentage de gens qui le font. Et moi-même, je le fais pas. Donc, je me dis.
Ça fait un peu flemmard. Le mec a pas voulu s'adapter au format d'Instagram, quoi.
Ouais. Enfin,
je trouve pas ça terrible. Je l'ai vu effectivement sur IGTV. J'étais un peu choqué, quoi. Je me dis, mais merde, je vais pas tourner la tête, quoi. Faut pas déconner, quoi.
Ouais. J'ai trouvé ça très, 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 très surprenant. Bon. Tiens, on va passer sur les 2-3 conseils pratiques. Bon, je connais pas. Si je connais pas grand chose de la vidéo, je commence. Qu'est-ce que je dois faire si j'ai envie de faire la vidéo? Est-ce que je choisis d'abord une plateforme en particulier? Après, est-ce que je dois m'équiper? Est-ce que je fais ça avec mon smartphone? Comment tu vois les choses, toi?
Bah ouais, faut démarrer avec ce qu'on a. Hein. C'est le smartphone, ça me paraît être le mieux, mais le smartphone seul ne suffit pas. Faut bien penser donc à l'éclairage et au son. Hein, c'est deux éléments importants qui vont faire l'éclairage, que tu auras une image de qualité. Moi, je recommande d'aller sur le réseau social qui a le plus d'engagement au niveau de la vidéo pour démarrer, pour avoir un peu une mécanique qui t'incite à poster. YouTube est bien pour ça. YouTube, il y a une logique de programme. Il y a des personnes qui viennent commenter sur ta thématique. Moi, je pense que c'est bien. Enfin, en tout cas, moi, Max, bah toi aussi, hein. On arrive comme ça sur YouTube à instaurer quand même un lien avec une audience sur un format vidéo. Et les gens, au départ, quand tu publies, ils sont pas très exigeants, tant que tu réponds à leurs problématiques, à leurs questions. Donc, tu peux progresser. Donc, la vidéo, donc, comme on disait, faut la filmer plutôt à l'horizontale. Donc, faut mettre le smartphone quand tu te filmes sur un trépied. Faut le positionner sur un trépied en mode horizontal. Tu peux, pour avoir un retour écran, filmer avec la caméra frontale si elle est de bonne qualité. Maintenant, je pense que toutes les caméras frontales sont en 1080p. Donc, tu as la fenêtre en face de toi. Comme ça, tu as un bon éclairage. Donc, tu tournes de jour. Ça t'évite, pour démarrer, d'investir dans des softbox ou dans des panneaux LED pour avoir un bon éclairage. Tu mets un petit micro-cravate. Tu en as pour 20 euros. Tu positionnes ça. Si tu as une chemise, au niveau de la petite poche de la chemise, ou au niveau du col du polo ou du t-shirt, voilà. Là, tu as quelque chose de nickel. Tu as un bon son, tu as une bonne image, et là, tu peux commencer à créer quelque chose. Et même sans rentrer dans les considérations d'avoir un logiciel de montage. Parce que si tu as un iPhone, tu as iMovie qui est très bien, et on en parlait avant d'enregistrer sur Android. Il y a aussi un logiciel de montage très bien qui est KineMaster, qui vaut payer 3 euros par mois. Donc, même si tu en sers un mois, ça va. Et après, tu es assez autonome. Tu peux même directement uploader sur YouTube depuis ton smartphone. Il faudra quand même faire un effort sur. Les métadonnées, comme on disait, sinon la vidéo elle-même, elle va pas avoir beaucoup de chance de ressortir. Et en amont de ça, le plus important quand on fait une vidéo, c'est de savoir exactement ce qu'on va raconter. C'est le scénario, hein, on parle au cinéma, c'est l'histoire. Faut avoir une histoire à raconter, parce que si tu veux capter l'attention de ton spectateur, bah, il faut que tu arrives à l'embarquer, il faut qu'il arrive à suivre ton raisonnement. Et donc, à mon avis, il ne faut pas faire trop dans le spontané au départ, parce que c'est comme tu disais, les gens vont partir au bout de 30 secondes parce qu'ils ne voient pas où tu vas en venir. Donc, si tu construis ton histoire, tu vas bien séquencer les éléments clés, tu vas le dire au début, et puis tu auras un déroulé, une conclusion, et donc tu auras quelque chose d'assez logique. Voilà, on peut démarrer comme ça.
Oui, c'est un schéma très classique. Alors après, qu'on connaît ça quasiment tous, hein, on fait une petite accroche pour appâter. On va mettre un peu de branding, un petit peu si on veut, avec son petit générique, quand on commence à faire un peu mieux. Ensuite, on déroule son histoire. Et puis, on essaye de terminer par n'oubliez pas de vous abonner, une petite question ouverte, des choses comme ça, pour essayer de finir en disant pourvu qu'ils reviennent.
Ouais, tu crées un lien comme ça. Les gens, en général, enfin, si ta vidéo elle arrive à se populariser, c'est peut-être le début qui est le plus dur. D'avoir les 100 premiers abonnés, les 1000 premiers abonnés. Donc, la stratégie pour ça, enfin, à mon avis, celle qu'on utilise avec Max, c'est l'histoire des tutoriels, parce que tu réponds à une question, tu résous un problème, ça va forcément intéresser plein de gens. Ouais. J'ai vu sur ta chaîne, je suis tombé sur des vidéos où tu avais testé, je crois, Feed, où tu avais fait une démo aussi d'un stabilisateur. Bah voilà, parce que je suis tombé dessus parce que je me posais des questions à ce moment-là, quoi. Et comme je te suivais en plus, il doit y avoir un mécanisme, je sais pas, d'algo aussi de YouTube qui dit t'es déjà allé sur cette chaîne, je vais te pousser un peu la vidéo de ton copain, quoi.
Ouais, et alors d'ailleurs, tu parles de la vidéo feed, c'est celle qui a le plus de succès sur ma chaîne, celle qui m'a apporté le plus de commentaires aussi, de gens qui mettent des commentaires à la con, hein, mais ça c'est, c'est la logique. Et puis derrière, après, les autres vidéos, c'est ben, un petit peu, effectivement, quel matériel j'utilise pour faire de la vidéo, la fois où j'ai du mal de mon Sony aussi, de mon appareil photo Sony, et puis, comment ça s'appelle, un appareil pour faire de la soupe.
Ah ouais, ça marche bien, ça.
Ouais, les tests produits, faut le dire, hein, pourquoi alors tout ce qui est déballage, les hauls, les unboxing, etc., marche bien. Ben, c'est juste parce que c'est, sur le plan marketing, c'est beaucoup moqué, n'empêche. Vraiment, un jour, je ferai un épisode là-dessus, mais je le dis toujours à mes étudiants. On moque beaucoup tout ce qui est déballage, unboxing et compagnie. Et pourtant, pour un acheteur, c'est le moment où il se rend compte si oui ou non la pub était une fausse promesse, une vraie promesse ou pas, parce que la personne qui ouvre le produit, elle ouvre un vrai produit. Et d'un coup, on se dit, bah tiens, oui, la boîte, elle est comme ça, c'est emballé, etc. Et c'est un facteur qui est très important pour rassurer le futur acheteur. Et c'est pour ça que ça a beaucoup de succès. Quand tu tutoriales, je crois qu'il y a une stat qui résume tout, c'est que il me semble que c'est 50-60% des recherches sur YouTube et sur Google commencent par comment.
Comment faire,
ouais, comment faire, ou how to. Et je crois qu'ensuite il y a, alors après je sais pas, on fait ce qu'on veut, mais je donne la stat, je crois qu'il y a 60% ça concerne ensuite des recherches sur YouTube, sur Google, concernent le porno. Et donc si on fait un croisement des deux, normalement si t'arrives à faire
comment faire l'amour
et du porno, tu dois faire un max de trucs, sauf si bah bien sûr tu risques que ta vidéo se fasse virer si tu vas dans certaines limites, mais normalement. Et c'est pour ça que je dis souvent, les chaînes de drague, etc., marchent aussi très bien, tous les conseils là-dessus. C'est pas étonnant, parce que quand on regarde les stats de tous ces outils-là, eh ben, on a des pistes hein, de sujets qui reviennent un petit peu souvent quand même.
C'est vrai qu'il y a des contenus très étonnants qui marchent. Et j'ai un collègue également, il a une chaîne dédiée au marketing. Et à côté de ça, il fait sur cette même chaîne des vidéos test produits. où il va au restaurant manger tel ou tel burger, etc. Le nouveau, je sais plus quoi, Big Mac, ou le nouveau, enfin, je sais plus les noms. Il a testé Feed également. Et pareil, je regardais, c'était ses vidéos qui fonctionnaient le mieux, quoi. Parce que les gens, en fait, ont envie, avant d'acheter, ont envie de voir. Et il fonctionne bien également ce genre de vidéo parce qu'en général, le vidéaste, il va être assez sincère. Il va déguster le truc et puis il va dire ah oh, c'est pas bon. Enfin voilà, il va pas être payé, il va être complètement spontané. Et là, quelque part, moi je trouvais ça assez surprenant, hein, tout ce qui est dégustation. Mais c'est vrai que c'est un format qui cartonne.
Et encore, on est sur des. En France, on est le problème est limité, mais c'est vrai que bon, en Asie, il y a les fameuses personnes qui se filment en mangeant, c'est un phénomène qu'on voit aussi aux États-Unis, etc.
Ouais.
On a des chaînes en France qui marchent très bien, donc je me rappelle pas le nom du gars, tu sais, qui fait le tour de France de tous les restaurants là, qui bouffe des hamburgers tous les jours, etc.
Ouais, on en a parlé de ça.
J'avais
ouais.
commencé à le regarder, il avait quelques dizaines d'abonnés, et puis d'un coup, il s'est retrouvé, et puis c'est incroyable le nombre de milliers d'abonnés qu'il a et tout. Il était même venu à Clermont. Manger un hamburger Auvergnat, tu vois. Donc, vraiment, vraiment, c'est assez épatant. Et,
Il travaille dans une chaîne de radio, non, je crois, au départ.
Oui,
donc,
oui,
il travaille dans une radio. Rien à voir avec la dégustation, quoi.
Voilà, et même au départ, je crois que ça n'a rien à voir avec la cuisine, hein, sa chaîne de départ. Et il s'est lancé dans un espèce de défi de dire tous les jours, je vous parle de bouffe, je vais tester un restaurant. Mais au final, maintenant, je crois qu'il ne fait plus que ça. J'ai l'impression qu'il mange ouais. tous les jours. J'ai perdu son nom, mais si je le retrouve, je mettrai dans les notes de l'émission. Bon, maintenant.
Il y a un peu l'idée aussi de vivre par procuration, quoi.
Ouais.
Ça t'évite de grossir, tu manges, ça
ouais.
passe.
Ah ben, pour moi, tu vois, qui prépare un marathon, c'est bien. mais moi, je crois que je vais grossir juste en le regardant faire. Il y a des trucs, et puis même, je sais même pas si j'aurais envie de le manger. Donc maintenant, on a notre vidéo qui est en ligne. On a parlé un petit peu de référencement, comment attirer l'œil, etc. Mais finalement, comment est-ce qu'on arrive à gagner des abonnés?
Ah, ça, c'est si la vidéo fonctionne bien, donc elle génère du temps passé, de l'engagement. Bah, c'est à ce moment-là, quand tu arrives à la fin, il faut donner un petit une petite call to action, un appel à action où tu dis à ta communauté, si ta vidéo t'a plu, abonne-toi. Mais il faut donner une raison de s'abonner. Pourquoi il va s'abonner? Parce que il va savoir, ton spectateur, que tu as une logique de programme. Donc tu peux dire simplement, t'as vu cette vidéo aujourd'hui? Bah, chaque semaine, enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Je publie un tutoriel vidéo à telle heure. Dimanche à 10h. Et donc en faisant ça, bah, tu donnes une raison de t'abonner. Parce que s'il n'y a pas de raison réelle, si tu publies 10 vidéos et après que tu t'arrêtes, c'est vrai que ça n'a pas vraiment de sens. Donc l'abonnement, tu peux facilement le placer comme ça, quoi. Et en général, tu peux regarder les analytics dans YouTube. Les vidéos qui marchent le mieux d'un point de vue engagement, qui ont les meilleurs likes, le même nombre de commentaires, voilà, qui sont appréciées par la communauté, vont générer derrière des abonnements parce que les gens, ils sont un petit peu pragmatiques. Ce truc, ça a plu, j'ai envie de le retrouver plus tard. C'est tellement la nébuleuse Internet, on s'y perd, etc. Et donc, il faut être un peu lourdingue à la fin de la vidéo. Il faut dire abonne-toi. Comment il s'appelle Stan Leloup, là, qui témoigne dans le livre. Il disait carrément, faut montrer l'endroit avec le doigt où faut appuyer sur le bouton et faut indiquer le bénéfice. Comme je te disais, il y a une vidéo qui arrive, donc voilà, c'est un peu ça l'idée, quoi. Faut être un peu lourdingue.
Ouais, faut être un peu lourdingue. Ça marche partout, hein. Moi, je sais, par exemple, dans le podcast, je suis pas assez lourdingue sur Patreon, par exemple. Et puis, il y en a certains qui me le rappellent, et je les remercie, les auditeurs qui me le rappellent, qui me disent, hey, t'as oublié de parler de ton Patreon cette semaine. Tu devrais en parler plus souvent, mais oui, effectivement, faut être un petit peu lourdingue là-dessus. Bon, t'as parlé d'analytics, d'ailleurs, c'était intéressant parce que, il me semble que j'ai entendu Max dire un jour que tu étais à fond dans les chiffres, les statistiques, c'était ton truc, ça, c'est tout ça.
Ouais, ma carrière chez Orange, j'ai démarré, alors c'était pas encore Orange, à l'époque c'était Wanadoo. J'étais MOA, maîtrise d'ouvrage, de l'outil interne de mesure des analytics, qu'on a arrêté, hein, maintenant on est passé chez Orange à Google Analytics, mais à l'époque on avait notre propre outil, qui avait donné lieu aussi à Istat, hein, qui à l'époque avait été revendu à Médiamétrie, hein, donc il y avait toute une logique là-dedans. Et moi, effectivement, j'étais un petit peu en support aux responsables de chaînes de contenu sur le portail Orange. Il y avait le moteur de recherche, la chaîne Actu, Sport, etc. Et ça me plaisait un petit peu d'analyser, de comprendre les raisons du succès. Alors, c'était pas des vidéos, mais c'est des chaînes de contenu. Et donc, j'ai toujours aimé ça aussi, aller regarder un peu les logiques d'acquisition qu'on peut avoir. Donc, sur Orange, c'était très lié à la mise en avant sur la page d'accueil. On a aussi des contenus qui se référençaient bien. Et donc, nous, notre volonté à l'époque, c'était de basculer, comme Google arrivait à toute puissance, du modèle, tu as une page d'accueil qui maintenant marche plus tellement, à un modèle où les gens sont sur les réseaux sociaux, sur Google, comment réussir à les capter. Et donc, c'est par mon métier que je me suis intéressé à ça. Et après, quand j'ai développé mon blog, j'ai eu toujours cette logique. Alors, le plus simple, quand tu démarres sur Internet, c'est d'aller capter de l'audience sur Google, parce que c'est assez massif. Et donc, effectivement, pour comprendre comment ça marche, tu vas regarder tes analytics. Tu vas regarder les mots-clés qui t'apportent du trafic. Avant, c'était dans Analytics. Maintenant, c'est dans un outil à part, c'est Search Console. Et avec ça, tu apprends plein de choses, quoi. C'est vachement riche.
Mais il y a un truc, ça m'explique toujours pas vraiment, moi, tu vois. C'est, toi, tu as une chaîne à bientôt 25 000 abonnés, on va dire, on va arrondir. Ouais. Hein, et puis, le temps que ça s'écoute, tu auras dépassé ça. Comment tu expliques que certaines de tes vidéos, finalement, elles ne font que 400 vues?
C'est le sujet en fait, et c'est l'engagement de ma communauté. Je le dis très clairement. J'ai une chaîne qui est assez généraliste sur la tech, et je sais que j'ai certaines vidéos qui vont pas marcher tout de suite. Si je parle de comment faire un CV, comment faire une présentation PowerPoint, ça va pas adhérer avec la base de ma communauté qui est abonnée à ma chaîne. Par contre, dès que je parle des sujets qui sont un peu périphériques, à la création de vidéos sur YouTube, comment gagner de l'argent sur YouTube, etc. Ça, c'est peut-être aussi lié au succès de mon livre. Là, je sais que je vais plus l'engager. Mais alors, donc moi, je suis obligé d'un peu de faire un mix sur le long terme par rapport à ce genre de contenu que je disais, des tutoriels plutôt informatiques, bureautiques. Je sais dans le temps, ils vont bien marcher, mais quand je vais publier, ça va pas engager mes abonnés, ça va pas les intéresser. Et de temps en temps, je fais. Et d'ailleurs, ils me le disent, hein, mes abonnés, ils me commentent. Quand est-ce que tu fais une vidéo sur YouTube? Donc voilà, moi je mixe un peu ça. Donc j'ai pris le parti d'être assez généraliste. Et en étant trop généraliste, tu perds de l'engagement. Si je devais donner un conseil, quand tu fais une chaîne, tu as plutôt intérêt à être focus sur ton sujet principal. Comme ça, tu auras, quand tu publies des vidéos, tu auras toujours des chiffres bons. Et parfois, tu exploseras parce que ta vidéo sera promue dans les algorithmes de YouTube. Donc moi, j'ai pas une chaîne où les gens sont super engagés, quoi.
D'accord. Ça voudrait donc même dire que si on a plusieurs thématiques, il faudrait faire plusieurs chaînes, en fait.
Ouais, t'as plutôt intérêt à scinder les chaînes, ouais, à les concentrer sur une thématique. Et il y a des chaînes comme ça qui ont un super taux d'engagement. Je pense les chaînes, je regardais ça parce qu'il y en a qui viennent commenter de temps en temps, je regardais. Les chaînes ASMR, hein, tu parles au micro, tu fais des gestes comme ça et tout, chuchotement comme ça. Là, j'ai regardé, ouais, j'étais assez surpris. Il y a un super taux d'engagement parce que les gens qui s'abonnent à ça, ils veulent que ça, quoi. C'est un peu leur drogue. Donc, voilà un petit peu le. Enfin, c'est une idée de contenu, hein, mais bien sûr, je dis pas.
Que l'ASMR, il y a un côté, c'est que si tu t'endors avec l'ASMR ou si t'as envie de te détendre, tu vas t'abonner à des chaînes qui font que de l'ASMR parce que t'as pas envie que t'aies un Thibaut Inchep qui vienne te gueuler dans les oreilles en plein milieu, tu vois.
C'est sûr.
Il y a un moment donné, je le comprends et c'est un petit peu logique. C'est vrai que les gens, ils se font leur propre télé, leur propre radio, ils recomposent des trucs. Alors si une fois que tu tombes sur de la chaîne ASMR, bah, tu restes là-dessus. Si t'as envie de voir de l'ASMR, tu fais ça. Si tu veux voir de la muscu, bah, limite, tu vas tout de suite de la muscu. Et c'est vrai, moi, tu vois, j'ai pas scindé ma chaîne en plusieurs morceaux, je mets tout dedans, je mets même le podcast, c'est un joyeux bordel. Mais c'est mon côté un peu feignant, mais je fais aussi sur Instagram, j'ai pas envie d'avoir trop de comptes, etc. Ce que je trouve après, c'est bien compliqué à gérer aussi. Mais j'ai vu, notamment, tu sais, c'est Nowtech TV qui avait séparé ses chaînes entre le live et les tests de vidéo. Et qu'en fait, ils ont grossi beaucoup plus vite en faisant ça. Et ce qui était un élément qui était assez intéressant. Gens sont abonnés aux deux chaînes, on peut se dire qu'à un moment, ils vont regarder une chaîne plus que l'autre.
Ouais, parce que le live, j'avais vu ça sur Notech, ils publient quotidiennement le matin, je crois. Hein.
Ouais, ils font les lives le matin, ouais.
C'est un format long, donc ils ont été. Enfin, c'était intelligent de scinder parce que ça peut agacer certains qui viennent voir les vidéos de test, d'avoir tous les matins la notification pour voir le live. Je pense que c'est pas le même public, et donc c'est la grosse chaîne où il y a les tests qui a grossi, hein, c'est ça, c'est pas la chaîne où il y a les lives qui a grossi.
J'ai pas regardé dans le détail, mais effectivement, la chaîne des tests a grossi. Effectivement, peut-être que la chaîne de live, il y a peut-être des gens qui en avaient marre d'être abonnés ou qui avaient supprimé la cloche parce qu'ils voulaient pas avoir la notification tous les matins. Mais toi, et d'ailleurs, cette discussion est en train de me dire que peut-être qu'il faudrait que je scinde mes chaînes et que je fasse une chaîne spécifique pour le podcast parce que comme je mets le podcast en audio sur YouTube, et ben peut-être ça serait une bonne idée. Tu vois, tu viens peut-être me trouver un argument qui vient de me convaincre de faire quelque chose de nouveau, parce qu'il y a des gens qui écoutent le podcast sur YouTube. Et on me disait non, mais tu verras, ça arrive pas, ça arrive jamais. Et pourtant, si, il y a toujours des gens qui écoutent le podcast sur YouTube.
Stan Leloup a fait ça. Hein, il a une chaîne où il met tous ses podcasts et ses vidéos un peu de décryptage, d'analyse qui cartonnent. Elles sont sur sa chaîne principale, quoi. Et il a bien fait, parce que sinon, s'il mettait les podcasts, je pense. où il n'y a pas l'image, il y a juste le son. Par rapport à une vidéo d'analyse qui est hyper travaillée, il aurait des effets où les gens gueulent, quoi. Et ça viendrait plomber ses stats de sa chaîne principale, quoi. Mmh. Et ça viendrait plomber l'engagement.
Bon, bah, tu viens de me donner du boulot pour les 2-3 prochains jours qui viennent. Je te remercie pas pour pour le truc, j'avais suffisamment de choses à faire, mais voilà, c'est vrai que tu vois, la réflexion me permet de réfléchir là-dessus. Ce qui était intéressant dans ta remarque précédente là sur les vidéos, c'est que finalement, ça a permis d'aborder aussi un élément sur finalement le YouTube, c'est quand même du contenu long, on pourrait dire evergreen sur des sujets avec des vidéos qui ont du succès sur des plusieurs années, quoi. Hein. Ça, on n'est pas que sur du court terme par rapport aux réseaux sociaux, on a vraiment cette phénomène de long terme. Hein.
Exactement. Bah, là, j'ai eu une notification aujourd'hui pour un tuto que j'ai fait il y a 3 ans sur iMovie parce que je sais pas, il a dû dépasser les 200 000 vues. Et donc, effectivement, tu as un truc à un moment donné, un tuto que tu publies qui va populariser parce que tu parles d'un truc très populaire qui est recherché et qui va faire ses 1000 vues par jour sur la durée, quoi. Incroyable. Alors après, il y a peut-être un phénomène à un moment donné, bah, c'est comme pour les blogs. Si ton contenu n'est pas assez actuel et que les choses ont évolué, bah, et que d'autres publient par-dessus toi, bah, ton truc va mourir d'une mort lente, quoi. Hein. Mais effectivement, moi, j'ai pas mal de contenu vidéo publié il y a 2-3 ans qui, c'est ces contenus-là, finalement, sur ma chaîne, qui font le plus d'audience, où j'arrive à faire du 1000 vues quotidien sur quelques vidéos. Et donc, quand tu vas voir ma chaîne et que tu vois les dernières vidéos, tu te dis, bah, celui-là, personne ne regarde ces vidéos. Mais en fait, non, c'est le contenu, comme tu disais, evergreen, qui fonctionne, ouais.
D'accord, bon, bah on a fait un bon tour sur la vidéo. Maintenant, je te propose qu'on parle un petit peu de ton livre, parce que finalement, il est sorti hier, mais aujourd'hui, là, quand on enregistre. Ouais. Tiens, je me posais une question. Quand on sort un livre comme ça, est-ce qu'on va à la FNAC ou je sais pas où pour voir à quoi ça ressemble sur les étagères du magasin?
Ah ouais, on y va pour vérifier qu'il est bien présent en rayon. Ouais, alors, je l'ai pas fait aujourd'hui, mais pour mon premier livre YouTubeur, parce que c'était nouveau, l'édition traditionnelle, ouais, c'était un truc que j'allais et j'avais la rage parce que je le voyais jamais en étagère. Parce que c'est pas un truc aussi rapide que ça. Faut que les FNAC s'approvisionnent. T'es pas distribué sur toutes les FNAC. Et après, faut aussi que le truc fonctionne parce que quand en fait tu vends des livres dans des magasins type librairie, ils vont demander à être réapprovisionnés. Donc ça, c'est un bon signal si les stocks qui partent rapidement. Et c'est là où après d'autres magasins vont en commander d'autres et tu le verras plus souvent. Donc je me souviens très bien YouTubeur quand il est sorti, c'était ma frustration, je le voyais pas du tout en FNAC. J'étais très peiné. Je pense que tous les auteurs sont peinés parce que si tu sors un truc, c'est pour qu'on le voit. Et il s'est fait, la popularité s'est fait dans le temps parce qu'il y a eu des demandes, des ruptures de stock. Et à ce moment-là, bah, ils se sont passés le mot, je pense, entre magasins. Celui-là, ils se vendent bien, donc on va le plus le distribuer. Et après, à chaque fois que j'allais dans un magasin, je le voyais, donc c'est une grosse surprise. Mais j'ai pas fait l'effort d'aller voir s'il était présent. Mais effectivement, ça fait toujours plaisir. Hein. Tu vas jeter un petit coup d'œil, tu regardes un petit peu son emplacement, où il est mis, à hauteur de vue ou en bas. Là aussi, tu sais si c'est bien ou pas. Dans quelle catégorie en général, les rayons informatiques, souvent ce genre de livre est classé en rayon informatique ou marketing, ils ne sont pas très en vue. C'est plutôt les romans, hein, qui se vendent bien en librairie.
Ouais, alors moi, je vais même te dire un truc, c'est qu'à Clermont, la FNAC, elle a un rayon informatique qui devient tellement faible, mais vraiment d'une faiblesse incroyable. Je crois qu'ils vendent plus d'aspirateurs que de livres informatiques, parce que franchement, ils ont réduit le rayon. Alors que, tu vois, l'espace culturel, Leclerc, les choses comme ça, là, qui ont maintenant plus de livres que la FNAC, très clairement. Mais je suis pas allé voir, tu vois. Mais la prochaine fois que je vais voir en librairie, je regarderai. Et si c'est le cas, je ferai une petite photo et je partagerai ça en story. Donc il sort, donc il est sorti ce 28 février, hein, comme ça. Qu'est-ce que ça fait de, enfin, parce qu'il a été commencé quand, ce livre, en fait?
Alors l'idée, c'est venu de mon éditeur, Erol, qui disait, bah, t'as fait un livre sur YouTube qui s'adresse un plus au grand public. Est-ce que tu pourrais pas faire un livre sur le marketing YouTube? Donc j'ai réfléchi et je me suis dit, c'est un petit peu limitatif parce que YouTube, c'est quand même plus dédié, on va dire, aux créateurs qu'aux marques. Et donc j'ai peur qu'ils n'y arrivent pas à avoir le ton un petit peu authentique que peut avoir un YouTuber. Donc faut aborder les autres réseaux sociaux, faut aborder Facebook où la vidéo cartonne. Faut aborder également Instagram où c'est en train d'émerger. Donc de fil en aiguille, on a réussi à le convaincre. Et j'ai dit à mon éditeur, moi autant je peux parler des problématiques de marketing digital, c'est mon boulot, un peu de vidéo, mais je fais des vidéos quand même, c'est le format plutôt amateur. Je serais beaucoup plus confort si on le faisait à deux avec Max Maximus. Et donc j'ai convaincu Max de m'accompagner. Et voilà, on s'est mis à écrire après. Réellement, donc on a démarré à écrire au mois de février, mi-février. Donc on se challengeait pour avancer un petit peu, de se faire un planning de quel chapitre on allait écrire. En général, chacun on se répartissait le travail pour pas faire deux fois le travail. Chacun traite son sujet de prédilection, là où il a la plus de légitimité. Max, il est plus à l'aise que moi sur le matériel, il est plus à l'aise que moi pour faire des plans produits, pour faire des interviews vidéo. Donc toute la partie technique, c'est plutôt lui qui l'a abordé. Moi, je suis plus à l'aise sur les logiques d'algorithmes, de réseaux sociaux, donc j'ai plutôt traité ce genre de sujet. Et pour chaque aventure livresque, ce que je fais, c'est que je sollicite entre guillemets, des experts, des gens qui ont l'habitude de communiquer. Donc notre cible étant, on veut que ce soit des responsables marketing en entreprise, que ce soit des professionnels, on veut donner envie aux professionnels d'utiliser la vidéo, quoi. On veut leur démontrer que c'est efficace pour vendre leurs produits, pour intéresser autour de leurs services. Donc on a pris des personnes, on en a trouvé, qui utilisaient vraiment la vidéo. Alors ils ont une utilisation, il y en a certains c'est plutôt YouTube, d'autres plutôt Facebook, d'autres plutôt Instagram, donc on a vu des cas très concrets. Donc ça c'est venu enrichir le livre, donc les interviews. Et au bout de 7 mois, voilà, on avait donc avant de finir d'ailleurs, on vous a fait relire les relecteurs. Peut-être 6 mois après l'écriture, on avait tout qui était prêt. Très important, c'est de dire est-ce que c'est digeste ce qu'on a écrit, est-ce que ça se lit bien, est-ce qu'il y a une bonne trame, est-ce qu'on n'est pas rentré dans des trucs trop compliqués. Donc quand tu écris, après tu réduis beaucoup, tu enlèves beaucoup de choses. Qui ne sont pas intéressants, où tu as beaucoup de redondance parce que dans un chapitre, tu en as parlé, tu en as parlé dans un autre. Donc là, le travail des relecteurs est super efficace. Et donc, au bout de 7 mois, on avait le manuscrit, on dit compuscrit final, qui était prêt à être maquetté. Voilà.
D'accord. Et donc, maintenant, il est donc en librairie, mais il n'est pas encore en librairie physique, puisqu'il est aussi sur Amazon, bien sûr, et aussi en audio. Sur Audible. Alors là, j'imagine que c'est aussi une drôle d'aventure d'arriver à se mettre chez Audible.
Ouais, c'est assez drôle. Donc ça, c'est un truc auquel Max tenait absolument. Parce que Max est un grand lecteur de livres audio. Il n'est pas très à l'aise avec l'écrit, très sincèrement. Donc lui, c'était pour lui une nécessité. Enfin, je veux dire, il parle à son public. Il faut qu'il puisse l'écouter. Et lui-même, écoutant beaucoup de livres audio. Donc on a fait l'effort. Alors moi je lui ai dit hein, restons focus hein, sur l'écriture du livre au départ, livre papier, livre numérique. Et on regardera à la fin le livre audio. Parce que faut être réaliste en termes de part de marché aujourd'hui, c'est pas non plus ce qui explose tout. Hein, mais sur les romans, ça commence un petit peu à émerger. Donc quand on a eu le livre fini, je me suis dit bon, il y a deux acteurs aujourd'hui en France qui font des livres audio. C'est Audiolib qui est John Voiture, je crois, entre Hachette et Editis. Qui en fait va distribuer à toutes les plateformes. Et t'as Audible Studio, donc là c'est une distribution sur Audible, donc sur Amazon, Audible, également sur iTunes. Je crois qu'ils ont un accord avec iTunes. Donc on a challengé les deux. Donc Audible Studio vraiment a été à fond sur les voilà. Enfin voilà, j'ai un petit tips. Ils sont assez ouverts, ils osent prendre des risques. C'est Amazon derrière, parce que derrière faut qu'ils rentrent dans leur chiffre de vente. Donc ils nous ont payer la production. Ils nous ont versé un avaloir et on a un intéressement sur les chiffres de vente. Et on a réussi, je pensais pas qu'on y arriverait, franchement. Je me dis, Amazon, c'est la grosse société. On a réussi aussi à imposer que c'était moi et Max qui liraient une partie du livre, et Mélanie, notre collègue Mélanie Pain, qui est, avec qui on contribue pas mal sur la vidéo, qui est comédienne voix off, qui fasse la lecture de, je crois, 90% du livre, quoi. Et donc on a réussi, et en fait ça s'est fait vraiment très très vite. Donc Mélanie a même eu un cachet, donc ce qui nous a paru bien parce que c'est quand même un effort. Et l'enregistrement s'est fait genre début du mois de février, quoi, assez vite. Hein. Donc il y a eu tout un temps où on discutait un petit peu contrat, etc. Et au mois de février, début février, on va dans les studios. Alors il nous avait fait quand même, c'était en fin d'année, fin 2018, vers le mois de novembre. Ils ont vérifié quand même qu'on était capable d'aligner 3 mots en lisant du texte en studio. Ouais, non, c'est vrai. Faut le faire. Bon, ça va, on s'est pas trop mal tiré, mais c'est pas, franchement, c'est pas un exercice facile.
J'imagine que c'est pas un exercice facile parce que je me posais la question, je me disais mais il faut relire le truc, c'est pas si simple que ça de parce
Ah
que
ouais.
tu relis exactement ce qui est écrit dans le bouquin finalement.
Exactement, faut pas changer une virgule, faut pas faire une faute d'accord. Et le mec, il te reprend, il lit derrière l'ingénieur du son et te dit non, tu l'as refait celle-là. Et donc ça peut être vraiment très frustrant. Et imagine, tu débarques dans cette salle d'enregistrement, t'es pas très à l'aise, quoi. T'as les autres qui t'écoutent, qui te regardent, tu te dis merde. Au départ, franchement, tu perds tes moyens, t'es pas à l'aise. Et donc ils font bien leur boulot, les ingénieurs de son. Ils disent vas-y, prends ton temps, lis tranquillement, etc. Ça va y arriver, on va y arriver. Donc tu lis un peu à blanc, tu te plantes complètement, t'as pas le ton et tout. Puis à un moment donné, ils se rendent compte que t'as chopé la mécanique, que t'es à l'aise. Et là, ils disent bon, tu peux la refaire avant. Il y a aussi un côté psychologique, hein, très sincèrement. Tu peux la refaire, oui, tu la refais. Et puis après, t'enchaînes. Hein, faut vraiment. Donc on a fait le casting et puis on a enchaîné 2 jours et demi à faire les enregistrements. Donc moi j'ai lu la partie intro et conclusion et les interviews des gens qu'on a sollicités pour l'ouvrage. Max a lu, donc lui il était pas très à l'aise pour lire des grandes quantités de textes. On a à chaque fiche 3 idées clés et donc il a lu les 3 idées clés. Et Mélanie, elle a lu l'intégralité des fiches de contenu et franchement c'est là où tu te dis c'est un vrai boulot. Elle l'a fait très bien, très sûre d'elle et donc on a été efficace avec cette organisation. Donc quand tu fais un livre audio, faut pas se voiler la face. C'est pas un exercice simple. Hein. S'il y a des comédiens en voix off, je pense que c'est bien de les faire bosser avec toi et de pas avoir la prétention que tu vas pouvoir lire tout le livre dans son intégralité, quoi.
Ouais, parce que soyons honnêtes, en plus, il y a des bouquins sur Audible qui sont vraiment très 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 mal lus.
Ouais.
Alors que un bouquin bien lu, moi j'ai des souvenirs notamment d'un bouquin qui doit s'appeler 42 km, je crois, un truc comme ça, sur le marathon, où il y avait même le souffle du coureur, etc., qui faisait, et c'est lu par l'auteur en plus, vraiment, qui, enfin,
Ouais.
je crois, qui fait vivre, etc. Jean Echenoz aussi lit ses propres livres, et c'est très, quand c'est bien fait, c'est vraiment bien. Mais je sais qu'un jour Corben avait montré des exemples, il a dit, il y a des bouquins, c'est vraiment une catastrophe, t'as plus envie de l'écouter, quoi que ce soit derrière.
Ouais.
Et c'est vrai que c'est important cette histoire de voix, et bon, si on regarde un peu les stories de Mélanie Pain, etc., moi j'avais vu un peu vos stories là qui montraient ça, on voit qu'elle, bon, elle a une voix qui est posée tout de suite, etc., c'est vraiment un vrai, vrai, vrai métier. Hein.
Tout à fait, tout à fait.
Donc bon, on a là-dessus finalement ce livre. Tout est sorti en même temps là. Toutes les versions sortent en même temps là.
Voilà, alors c'était ça sur la théorie. Et il y a un tout petit retard pour l'e-book. Donc nous, quand j'ai contractualisé avec Erol, ce qu'on essaie de faire, c'est d'avoir les sorties conjointes parce que j'ai des lecteurs numériques qui sont hyper frustrés et souvent ça se passe que tu as le livre papier qui sort et tu n'as pas la version e-book qui arrive, je sais pas, 2 mois après. Donc là, il y avait un petit souci technique. Normalement, ça sort, on va dire, le 1er mars. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Donc j'étais un peu frustré aujourd'hui de ne pas avoir l'e-book en même temps sur toutes les plateformes, mais ça devrait arriver. Donc là, le 28, il y avait que le livre papier et le livre audio. Et donc ça, c'était quand même une prouesse d'avoir le livre audio en même temps. Et l'e-book, normalement, va être là le 1er mars. Et nous, c'est intéressant. C'est des choses que je négocie aussi avec Erol à chaque fois, c'est d'essayer d'avoir un livre numérique, un e-book. Donc bien sûr, eux les diffusent sur toutes les plateformes, c'est pas comme l'auto-édition où tu vas te concentrer sur Amazon, donc c'est disponible sur Kobo, sur Kindle, sur iTunes. Et on a réussi une fois encore à avoir un prix très attractif, donc le livre e-book est disponible à moins de 10 euros, à 9,99 € quand le livre papier est à 25 euros. Et même sur le livre audio, il est à 12 euros. Donc tu peux acheter, je sais pas, le livre audio à 12 euros, le livre numérique, comme ça t'as un truc équivalent au livre papier, quoi. Donc on est sur des trucs intéressants.
Ouais, on a l'ensemble. Si on veut écouter, lire, etc. D'ailleurs, c'est un meilleur moyen de mémoriser. Hein. J'avais fait un épisode sur le sujet. D'abord lire, puis écouter, ou écouter, puis lire. Je sais plus dans quel sens j'avais dit, mais notre
Ouais.
cerveau est fait pour mémoriser dans ce sens-là. Il y a une question quand même qui est intéressante. Et bon, on va venir sur un petit truc que tu avais écrit il y a quelque temps. Mais pourquoi est-ce que c'est à toi, qui a 25 000 abonnés, finalement, que Erol propose de faire un livre sur une chaîne YouTube et qui ne demande pas ça à un gros YouTubeur, je vais pas dire Cyprien, tu vois, mais des gens comme
Ouais.
ça qui ont vraiment un gros max d'abonnés, quoi.
Bah, c'est-à-dire que les gros youtubeurs en fait sont sollicités par pas mal de maisons d'édition. Et n'ont pas réellement le temps d'écrire. Enfin, je veux dire, c'est 2 métiers, hein. Faire des vidéos et écrire des histoires. Il y en a un qui fait ça très bien, qui fait les mangas. Il le fait pas tout seul. C'est le Rire Jaune. Je crois qu'il a une dessinatrice. Il en vend des cartons. Enfin, ça cartonne. Il y a des youtubeurs dans le genre hein, qui vendent bien. En général, ils vont parler plutôt de leur thématique. Je pense que toutes les chaînes sciences, histoire, Nota Bene a fait un livre également. Ils le font. Ils le font, bien sûr. Erol, moi, simplement, c'est parce que j'ai été les voir, je leur ai proposé et que j'aurais dit, je me sens pas enfin, moi, je vais avoir une posture. Je me place en tant que débutant et je pense que c'est bien de se mettre comme un débutant parce que si tu prends un youtubeur qui est déjà installé, finalement, il a un peu de mal à t'expliquer les recettes de son succès. Parce qu'il y a eu, moi, j'ai interviewé Nota Bene, il me disait, ça arrivait un petit peu par accident. C'était Antoine Daniel qui m'a mis en avant à un moment donné. C'est comme ça que les chaînes de vulgarisateurs se faisaient découvertes. Et après, bien sûr, j'ai mon programme qui est bon, donc ça a marché. Il y a voilà. Et donc, les grands youtubeurs vont être bons pour expliquer au travers d'un livre puisqu'ils font ils écrivent le scénario de leurs vidéos, c'est leur domaine, mais vont être un petit peu moins bons pour expliquer un petit peu les coulisses de leur construction de leur chaîne. Puis ils n'ont pas vraiment envie d'en parler, quoi. Ils ont plutôt envie de parler de leur passion. Donc c'est pour ça où ils pourraient solliciter, mais je suis pas sûr que les grands youtubeurs aient envie de faire ça. Ils préfèrent rester dans leur thématique. C'est comme ça qu'ils se sont fait connaître. Et donc moi, quand j'aurais proposé le projet, ils ont vu l'intérêt de quelqu'un qui débutait. Et également, moi, j'avais eu un succès dans l'auto-édition sur le blogging, et ils ont compris que ce que j'avais fait sur le blogging, j'étais capable également de l'expliquer sur YouTube. Donc, un éditeur, il va regarder ta capacité à vendre un ouvrage, à avoir une communauté. C'est pas parce que, donc, les chaînes YouTube installées vont réussir à bien vendre sur leur thématique principale de leur chaîne. Donc, une chaîne science va bien vendre un livre science, mais va pas réussir à vendre. Ça ferait bizarre. Je t'explique les coulisses, comment j'ai créé ma chaîne YouTube. Donc moi, j'étais plus dans ce terrain-là avec mon blog. Je l'ai continué avec YouTube. Et pour que ça convainque, bien sûr, j'ai été, comme je disais, interviewé des grands YouTubeurs hein, parce que je n'ai pas la prétention de donner tous les secrets. Et j'avais pas les métriques suffisantes à l'époque pour donner des enseignements complets. Donc, je me suis fait aider. Donc, un éditeur va regarder ta capacité à écrire et ta capacité en gros à convertir ta communauté sur un sujet et donc ils sont très friands bien sûr de grands youtubeurs hein. Les éditeurs ils se les arrachent hein, les grands youtubeurs parce qu'ils ont leur communauté, mais en général le vidéaste lui va plutôt préférer, mais ça se vendra aussi hein, parler de la thématique principale de sa chaîne.
Ouais. Au passage, hein, je dis, mais j'avais acheté, c'est pas si facile que ça, mais tu sais, j'avais acheté la version numérique du livre de Hard Disk, je sais pas si tu l'as acheté. Et j'avais pas du tout aimé, enfin je sais pas ce qu'il avait fait comme enfin le but de son bouquin. Et mais si je te parle de ça, enfin t'as pas peur qu'avec ton nouveau bouquin tu te reçoives une nouvelle un nouveau commentaire acerbe de ton ami Amixem?
Ouais, je pense que non, là c'est plus frontal, je parle plus de YouTube seulement.
Ouais.
Et je suis pas tout seul, c'est aussi pour ça que je l'ai fait avec Max.
Ouais. Bon, on va rappeler quand même, c'est que Amixem, donc, a 5 millions d'abonnés. Tout à l'heure, je suis allé regarder encore la vidéo où il parlait de toi. T'as bien descendu quand même dans une vidéo où il disait, mais c'est qui celui-là qui a écrit un bouquin comment devenir YouTuber, en disant il a seulement 20 000 abonnés. Ouais. Alors, la vidéo, j'ai regardé quand même, elle a fait 2 millions de vues, 155 000 pouces en l'air et 1200 pouces en bas, avec des gens qui disent, ah, il fallait voir la chaîne de janvier, il a que 20 000 j'aime, etc., et autres. Mais je crois qu'en fait, finalement, ça t'a bénéficié, cette histoire.
Ouais, sur l'instant, bon, ça va, ils n'ont pas été trop méchants, sa communauté, ils sont venus me voir. Donc, bien sûr, j'ai vu le truc arriver, hein, parce que. Donc, je suis abonné à la chaîne d'Amixem, ça m'a fait un peu mal, hein, qui parle en mal de moi, de mon livre. Mais il faut prendre de la distance, en fait, avec ces genres de choses. Lui, Amixem, il est dans son registre, il fait des super vidéos. Hein, là, en l'occurrence, il faisait la présentation de la Redbox, de son studio d'enregistrement. Je crois qu'il y avait même un partenariat avec Conforama ou Castorama.
Oui,
je sais
parce
plus.
Qu'il dit merci à Conforama pour avoir acheté tous les meubles et d'avoir tout décoré, quoi.
Et donc, il visite et il arrive dans sa bibliothèque et dans la logique, je pense, il voit les livres et il dit comment je vais faire pour trouver un bon mot. Et c'est facile, tu prends la quatrième de couverture, tu vois que je travaille dans les annuaires, donc tu développes la petite pelote. L'annuaire, c'est le Minitel, c'est le début, enfin, c'est même pas Internet. Ce mec-là, il connaît rien à Internet. Et il le fait vraiment pas par en étant violent, il le fait parce que il peut faire un bon mot. Il va pas regarder c'était bien écrit qu'il y avait des interviews de youtubeurs, il en a pas parlé, mais parce que il est là pour faire son bon mot. Donc quand c'est toi qui reçois ça, c'est un peu violent parce que donc t'as toute sa communauté qui est venue entre guillemets faire des petits commentaires sur ma dernière vidéo. Donc ça a boosté bien sûr la dernière vidéo parce qu'il y a de la curiosité. Les gens se disent mais qui c'est ce mec? Et donc Amixem avait dit dans sa vidéo, Jean-Baptiste V, c'est qui ce gars? Il a pas de chaîne YouTube. Pourquoi tu vois, il a même pas vu que j'avais une chaîne YouTube. Et donc il y en a d'autres qui ont répondu, mais si, il a une chaîne YouTube. Et donc ouais, ça fait un peu de la curiosité malsaine où les gens sont venus. Certains m'ont défendu, ouais, c'est pas mal finalement ce que tu fais. Il est un petit peu dur quand même de t'attaquer frontalement. Et d'autres qui me suivaient et qui aiment bien mes contenus se sont sentis agressés comme moi je me sentis agressé. Ils sont allés le voir et lui ont dit ouais, c'est n'importe quoi ce que tu fais. Tu sais, c'est un peu le truc qu'on vit en ce moment, la ligue du LOL, quoi. C'est facile de s'en prendre à une cible. Je pense pas qu'il le faisait comme ça. Il le faisait pour faire un bon mot. Il a dû s'en rendre compte. Donc moi, j'ai pris plutôt ça avec... j'ai pas... Franchement, les premières heures, quand j'ai fait ça, je fais putain, j'espère que ça va se calmer. C'est pas très agréable de se prendre des commentaires. Donc j'attendais plutôt que ça se calme. On va dire que ça a duré 24 heures. Et après, bon, j'ai déposé. C'est vrai que la réaction normale, c'est de s'énerver, de dire mais qu'est-ce qui te prend, etc. Je me dis, je prenons la distance. Hein, et je lui ai dit, de façon humoristique, sur Twitter, je vais aller retourner vendre mes annuaires en porte-à-porte. Je vais répondre comme standardiste au 118-712, etc. Et puis, on va relancer le Minitel, quoi. C'est parti. Et donc, il a lu ça et il a dit, c'est bien que tu le prennes comme ça. Finalement, je me suis peut-être un petit peu emporté. Tu as tout compris Internet, c'est ça. Faut pas se prendre au sérieux. Voilà, ça s'est terminé comme ça pour moi l'épisode. Amixem est un youtubeur qui a beaucoup de talent, qui fait des belles vidéos, qui a des projets, ce qu'il fait, franchement, moi je suis admiratif, et de temps en temps il a un bon mot, et il a pas vu l'humain qu'il y avait en face de lui, et voilà, c'est peut-être ça que je pourrais un petit peu reprocher, mais dans l'ensemble, j'ai passé à travers le truc, il y a pas eu d'acharnement, ça a duré peut-être 2 jours, et puis après c'est reparti, quoi, et puis les gens qui ont vu mes vidéos m'ont dit, bon, ça va, quoi, il est quand même un peu dur avec toi, quoi.
Voilà. Ouais, bon, t'as vendu des livres en plus ce jour.
Ouais, ça a dû, il y a dû en vendre un petit peu, ouais, ça, oui, effectivement, ouais, certainement.
Non, mais c'est un exemple intéressant parce que je sais dans les auditeurs et dans le podcast, on a eu ça avec un podcast un jour qui s'était moqué très, très, très méchamment, mais beaucoup plus méchamment qu'Amixem. Mais c'est vrai que sur le coup, le commentaire d'Amixem est quand même pas si sympathique que ça, mais on a eu un podcast qui s'était moqué vraiment des podcasteurs et. J'écoutais encore l'autre jour, tu vois, quelqu'un qui fait du podcast et qui écoute et qui disait qu'il était encore touché plusieurs mois après par cet épisode-là parce qu'il vraiment il l'avait attaqué vraiment super méchamment. Alors le podcast, lui, il a disparu, tu vois, carrément. C'était un petit podcast, mais vraiment ambiance Ligue du LOL, tu vois, qui on pense même qu'ils en faisaient partie, tu vois. On se pose la question s'ils en faisaient pas partie. Et c'est vrai que quand on prend des commentaires un petit peu comme ça, ça fait mal hein, sur le coup. Après, effectivement, il est adepte des bons mots, des choses comme ça, mais quand ça dérape un petit peu et qu'on est la cible, c'est toujours un peu rageant, quoi.
Ouais, c'est sûr. Ouais, c'était pas un moment agréable, mais heureusement, ça n'a duré pas plus de 2 jours. Et ça servait à rien d'aller mettre de l'huile sur le feu. Vu sa communauté, je me serais fait, je pense, encore plus défoncer si j'avais été dans la surenchère.
Ouais, non, c'est clair. Bon, allez, on va parler un petit peu. Tiens, on a parlé déjà de l'écriture du livre, le temps que ça a pris, etc. Mais finalement, moi, tu vois, ça fait 18 mois que j'essaie d'écrire mon livre et j'ai annoncé plusieurs fois que j'étais en train d'écrire, etc. On a parlé un peu de ton processus. Finalement, c'est quoi les conseils pour quelqu'un qui veut se lancer comme ça dans l'écriture? Comment est-ce qu'on arrive à... Alors, je parle pas d'être édité, mais comment est-ce que finalement, en auto-édition, quelqu'un qui a envie d'écrire un bouquin, qui a envie de s'auto-éditer sur Amazon ou je sais pas où, il pourrait faire. Mis à part acheter ton livre, hein, parce que t'as écrit sur le sujet, donc autant le dire.
Oui, j'ai écrit un livre qui s'appelle Auto-éditeur. Le point clé, c'est la motivation. Faut être motivé et motivé à écrire régulièrement. C'est comme ça que ton projet il va avancer. Et donc pour se motiver, il faut que tu visualises à la fin que tu vas produire un livre. C'est vrai qu'au départ, quand tu démarres, t'as un peu de mal. Moi, ce que je fais souvent pour tous mes projets en fait, c'est que j'en parle un peu en fait de ma production à travers mes blogs, à travers ma chaîne YouTube. Et donc j'arrive comme ça avant que le truc sorte à publier des bouts de contenu sur Internet et à recueillir du feedback d'utilisateurs, d'internautes. Et donc, je pense que c'est ça qui est bien, qui peut te garder motivé, parce que ce qui est dur, en fait, dans la rédaction d'un livre, c'est que tu vas écrire des tonnes et des tonnes de choses et que, finalement, tu parlais de 18 mois, ça va mettre 7 mois, 8 mois, finalement, avant de voir le jour. Et donc, si, à mon avis, il faut garder à côté de ta rédaction, comme tu le fais, une logique de publication de contenu et de temps en temps en partager des bouts pour garder la motivation auprès de ton audience et voir comment ils accueillent le truc. Et là, à chaque fois, ça te donne des petites, des petites vitamines qui te donnent envie de continuer parce que tu sais que le concept, tu l'as testé et que ça a plu. Donc, le plus dur, c'est la motivation, la régularité. Franchement, tu le calcules. Tu dis combien de temps je veux écrire mon livre. Allez, c'est 6 mois, 8 mois, j'en sais rien. Donc au départ, tu vas écrire ton plan. C'est comme ça qu'il faut faire en termes d'organisation. Tu vas écrire un plan et après, tu vas voir tes chapitres. Et donc tes chapitres, va falloir les remplir. Et quand tu remplis, il faut pas chercher à écrire avec du style. Il faut juste positionner les idées. Donc t'as des chapitres. Après, t'as un plan un peu plus détaillé avec les grandes idées. Et après, alors je sais plus, il y avait un auteur qui disait ça. Moi, c'était mon livre de chevet à l'époque. Comment il s'appelle ? Guy Kawasaki, je crois, qui a fait un livre là-dessus. Auteur, publisher, éditeur, un truc comme ça. App, je crois que c'est le nom du truc. Mm. Il disait, faut vomir le contenu. Voilà, faut vomir. C'est-à-dire, faut tout balancer dans les cases. C'est pas parfait. Et après, tu le reprendras en relecture, en confiant à des relecteurs. Des bribes de contenu. Il faut être un peu en mode, en mode startup, en mode lean. Tu vois, faut tester des trucs. Il ne faut pas chercher la perfection parce que si tu cherches la perfection, tu ne vas pas avancer. Et après, tu affines au fur et à mesure. Mais déjà, quand tu as ton plan détaillé, que tu as craché tes idées, que tu as quelque chose de mastoc, que tu as gardé la motivation en partageant quelques bouts d'idées avec ta communauté, au bout de 3-4 mois, tu as quelque chose qui se tient. Tu n'as plus qu'à l'affiner, tu vois. Donc c'est, à mon avis, en tout cas moi c'est ma démarche, c'est la démarche de beaucoup d'auteurs, c'est comme ça qu'il faut voir les choses quoi.
Ouais, moi c'est qu'en fait je me suis arrêté, j'ai repris, puis en fait avec le podcast à chaque fois j'ai des nouvelles idées, donc mon plan il est totalement explosé en fait, donc c'est pour D'accord. ça mon problème, je me suis relancé dans des mind maps avec pour essayer de reclasser certains esprits, certaines choses, mais bon bref, toujours est-il que j'ai pris une autre méthode, et je le dis, c'est que j'ai en effet, j'ai pris ma version longue et j'ai fait une version courte. Tu vois, je suis parti comme ça. Et que ce vendredi, là, que je vais diffuser une version courte à ceux qui participent sur Patreon, qui participent à la vie du podcast, pour avoir leur premier retour. Ils peuvent même l'éditer, pour même le corriger, parce que j'ai trouvé une plateforme sur laquelle ils peuvent même mettre des commentaires, éditer directement le test et faire la relecture. Et en fait, ça me fout un gros coup de pied au cul en me disant, voilà, là au moins, t'as une, comment premier, bon, en plus, il s'appelle le contenu minimum viable, donc vraiment dans une démarche lean. Ouais. Et ben, c'est vraiment, tu vois, je dis, il y a 30-40 pages qui sortent en méthode comme ça, et ensuite, au fur et à mesure, ben, je le compléterai, grossira, jusqu'à arriver finalement au livre que j'espère faire, voilà, qui est dans mon esprit, mais ça me permet de replacer le plan, et effectivement, comme tu le dis, d'avoir ce retour, de voir un petit peu ce que les gens en pensent, et notamment sur, ça me permettra d'affiner moi mon programme. Bon. Je pense qu'on a fait un bon petit tour hein, de tout ça. On est parti du principe qu'on a lancé un petit défi aux auditeurs du podcast. Voilà. Donc vas-y, je te laisse dire de quoi on a parlé.
Donc pour se lancer sur YouTube, par exemple, il faut faire une vidéo de présentation. Donc le défi, c'est de faire une vidéo de présentation d'une minute, ce qui permet de la publier après sur la chaîne. Où tu vas te présenter, où tu vas présenter ton activité. Voilà. Donc il faudra bien l'écrire avant. Et allez, celui qui a le plus d'engagement sur la vidéo, qui l'aura posté, le plus de likes, de commentaires, etc., je lui fais gagner un livre marketing vidéo, donc que j'ai coécrit avec Max Maximus, édité par Erol, dans le format de son choix, donc livre papier, e-book ou livre audio. Voilà le challenge.
Ouais, super challenge. Moi-même, j'ai même pas de vidéo de présentation sur ma chaîne YouTube, tu vois.
Donc faut le faire aussi.
Je vais me lancer dedans. Vous avez le week-end ou un peu plus pour faire ça. On va laisser un petit peu plus de temps hein, que le week-end. Mais bon, comme c'est le week-end, parce que nous sommes vendredi, vous avez plein de temps pour le faire. Donc, c'est un bon moment. Parce que d'ailleurs, toi, tu diffuses tes vidéos le dimanche matin, c'est ça hein ?
C'est ça, ouais. Je bosse le week-end sur mes vidéos et le dimanche, je publie à 10h. Comme ça, j'ai tout le dimanche, je peux le passer en famille, en fait.
D'accord. Et donc, tu la tournes quand ta vidéo, en fait, le samedi
Le samedi matin, mon fils est au taekwondo. Voilà, et donc il n'y a personne à la maison. J'ai une heure tranquille où je peux. J'ai pas de bruit d'enfant parce que le son est important. Et après, en général, soit j'arrive à faire le montage l'après-midi, si je passe du temps avec ma famille, je fais plutôt le soir après 10h. Donc, c'est hyper timé, quoi. Hein.
Ouais, c'est, mais je comprends parce que moi-même j'enregistre le podcast entre 5h et 7h quand ma fille dort le matin. Voilà. Là, elle se réveille à 7h moins 15 en ce moment, donc des fois ça perturbe un petit peu le démarrage. Et puis des fois j'écris les notes de l'épisode le soir après 20h, 21h quand elle redort. Voilà. Là, elle était malade, on pouvait pas l'amener à la crèche aussi. Bon, il y a un petit peu ça. Quand elle est à la crèche, c'est un petit peu plus simple. Mais effectivement, le timing du créateur de contenu, quand on avait un boulot à côté, etc., c'est pas si simple que ça, hein. Il faut arriver à tout caser. Donc, ça te met, finalement, tu mets quoi, 2 heures pour faire une vidéo à peu près, ou?
Oh non, je mets plus de temps que ça. Enfin, 1 heure pour la tournée, 1 à 2 heures pour l'écrire. Et le montage, ça peut facilement monter sur 4 heures. Donc une vidéo, c'est 5 ou 8 heures, hein, facile, en tout.
Ouais, 5 ou 8 heures, ouais. Bon, alors je crois que là, tu viens de décourager ceux qui voulaient se mettre à faire la vidéo facile. Mais il y a d'autres méthodes, hein. Moi, je fais des vlogs pas très travaillés, mais je les fais en 10 minutes, hein, très clairement. Par contre, un jour, j'ai essayé de faire du vlog à la Casinestat, et là, j'avais explosé en vol. Je sais même pas comment c'est possible de faire ça, et surtout de le faire tous les jours, ou vraiment, mais je crois qu'il a fait,
Ouais.
il a explosé aussi, lui, hein. Il a fini par exploser, mais bon, il y a 11 millions d'abonnés, donc maintenant il peut exploser, il est tranquille. Donc voilà, vous avez le défi. Vous nous signalez, vous me le signalez, vous nous mettez un petit message, vous m'envoyez un petit message pour me dire où est votre vidéo, comme ça on s'abonne à la chaîne, hein, on envoie ça, on fera un petit jury, hein, on se réunira entre, comme aux Oscars et aux Césars, voilà.
Ouais.
Et puis on vous demandera pas de faire un discours à la remise du bouquin, mais voilà. Pour finir, où est-ce qu'on peut te retrouver, à part dans les bonnes librairies? Mais on va rappeler quand même que donc il est normalement dans toutes les librairies, il est sur Amazon partout, il est en
Ouais.
numérique.
En numérique, ouais. Sur la Fnac, livre audio, donc c'est Audible ou iTunes, la distribution pour l'instant. Voilà, parce qu'ils ont une exclusivité Audible Studio. Donc sur l'e-book, il est disponible sur tous les stores, hein, iTunes, Amazon, Kindle. Qu'est-ce qu'on a? On a Kobo aussi qui est très utilisé, ce comme Kobo qui m'a acheté à la Fnac.
Ce qui est mon cas.
Voilà. Donc on n'a pas fait d'exclusion au niveau des formats. On peut me retrouver également sur ma chaîne YouTube. Tous les dimanches à 10h, je publie un petit tuto informatique. Là, je parlerai du livre. Donc abonnez-vous à ma chaîne. Comme ça, vous verrez de quoi je parle dans le livre avec Maximus. Et ouais, c'est tous les dimanches à 10h. Voilà.
Et donc là,
Janvier, la chaîne.
ouais.
Jeanvieut.
Voilà, l'adresse de la chaîne, c'est janvier. On te retrouve sur Twitter ou je sais pas, non, je sais pas.
Twitter également, ouais, ou Instagram. Et pareil, c'est le même pseudo, Janvier.
Ouais, alors je le dis, si vous achetez le bouquin, vous avez là les adresses à la fin. Donc il faut acheter le bouquin pour avoir les adresses. Non, c'est une blague. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode. Je vous mettrai aussi les liens Amazon, etc. pour acheter. Ce sera des liens affiliés. Comme ça, si vous cliquez sur le lien, ça me rapporte un peu d'argent. À moi aussi, ça permet de financer le podcast. Je le redis. Et ici, il y a un truc dont on n'a pas parlé, parce que quand même, je trouve que c'est un format, un concept intéressant dans le livre, c'est que quand on achète le bouquin, on a droit à 1 heure de formation
Ouais,
par max.
c'est ça, 50 minutes. Bah, je l'ai tournée avec lui. Elle n'est pas tout à fait encore publiée, donc soyez un peu patient, parce qu'on a fait beaucoup de choses en même temps. J'ai fait les sous-titres là très récemment, mais je pense que d'ici une semaine, ça pourra être consulté. Donc voilà, nous, on y tenait beaucoup à cette formation, parce qu'on considère que pour avancer dans la progression, enfin pour progresser en vidéo, c'est pas seulement lire, il faut aussi faire. Et donc les tutoriels qu'on a développés visent à ce que vous lanciez votre programme vidéo sur YouTube, sur Facebook, Instagram, vraiment sur le réseau auquel vous avez le plus d'affinité. Et on a fait comment dire, une formation avec du matériel que tout le monde a chez soi, qu'on a parlé dans le podcast avec Bertrand, avec un smartphone. Et alors la formation, elle est un peu dédiée pour la publication sur Facebook. On va vous apprendre à faire une vidéo format carré sur Facebook. On en a parlé un peu dans le podcast parce que c'est pas si simple que ça à faire. Et donc Max, lui, reprend la main sur la partie montage qui est son domaine et il montre un petit peu comment on intègre un format 16:9 dans un carré, comment on intègre des sous-titres. Donc ouais, elle est assez sympa cette formation.
Ouais, et je le dis aussi dans le livre, il y a bien sûr de nombreux liens vers des vidéos qui ont pu être faites, vers des tests de matériel. Voilà, si vous cherchez une petite lampe, par exemple, pour éclairer vos vidéos, eh ben on vous explique comment c'est fait. Voilà, il y a plein de liens pour continuer à découvrir des choses, hein. C'est vraiment comment on pourrait dire ça, c'est l'interactivité, l'hyperlien entre le papier, le web, etc. Tout est relié. Vous ne lisez pas seulement un livre, vous avez. D'ailleurs, je sais même pas comment vous avez pu faire dans la version audio pour faire ces renvois-là.
On n'a pas parlé des illustrations, sinon c'est impossible.
Voilà, donc je sais pas. Donc ça veut dire que moi je suis pas dans le livre
Ah
avec
non,
Kim
malheureusement.
Kardashian. Oh là
Non.
là, je suis quel
On te
décès.
cite, on te parle quand même dans les remerciements. Donc
Ouais,
on
non mais voilà.
remercie Bertrand, votre coach web.
Merci pour, vous voyez, mon ego est flatté sur ce coup-là. Je te remercie beaucoup. Merci en tout cas pour le temps, pour tes conseils. Voilà, il y a énormément de choses à faire hein, sur la vidéo. C'est vrai que c'est un format qui est ben, qui est officiellement le plus consommé en termes de volume de data, hein, même si je dis que, attention, le volume de data, c'est aussi un piège parce que le texte pèse très peu, mais que de toute façon, on a besoin du texte aussi à côté. On l'a parlé tout à l'heure pour le référencement, mais c'est vrai que dans les habitudes de consommation, on parle beaucoup du podcast, du boom du podcast, mais par contre, le boom de la vidéo, lui, ça fait des années qu'il dure et ça s'arrête pas. On n'a pas dit d'ailleurs, mais la rumeur, c'est qu'Instagram deviendrait un jour ou l'autre que des stories, hein, quasiment. Et dans ce cas-là, j'imagine même pas le chamboulement, l'explosion que ça risque d'être. C'est des choses qu'on va suivre dans les mois qui viennent, dans les années qui viennent. En tout cas, ça promet beaucoup, beaucoup, beaucoup de vidéos à regarder. Je ne sais pas comment on va faire pour regarder tout ça, mais peut-être tu nous feras un bouquin, comment trouver les bonnes vidéos sur YouTube, hein? Ce sera une nouvelle
C'est
idée.
une bonne idée, ça, ouais.
Voilà, comment bien trouver une bonne vidéo sur YouTube quand on la cherche indéfiniment, parce que des fois on tombe quand même sur des drôles de trucs. Voilà, je te remercie encore une fois pour tous tes conseils, et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, bah, à lundi, parce qu'on est le week-end, hein, c'est le moment de repos. Repos, attention, je vous rappelle qu'on vous a lancé un défi. Créez-nous une petite vidéo, créez des photos aussi, écrivez, créez du contenu. De toute façon, il faut de l'entraînement. C'est en le faisant tous les jours qu'on arrive à progresser. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite donc un très bon week-end à tous. Et à lundi. Ciao, ciao les créateurs.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com.